10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Xavier Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Voici les clés. Serrez-vous la main et jurez-vous amitié. Ayez des poignards dans la voix et non dans la main. Mais le pire est encore à venir. Ces mots extraits de Richard III, la pièce de Shakespeare, ça ne vous rappelle pas votre famille politique ?
Bon, ça peut rappeler beaucoup de familles politiques. Si vous voulez me faire dire que parfois on dépense beaucoup d'énergie pour se parler entre nous ou pour se combattre les uns les autres, vous avez entièrement raison. C'est peut-être aussi ce que j'ai compris fin 2015 avec cette campagne des régionales. Plutôt se battre pour les gens. Ça ne demande pas moins d'énergie, ça en demande plus encore.
Avec vous, c'est pratique. On a quatre invités en un, ancien ministre du Travail, ancien ministre de la Santé, actuel président des Hauts-de-France et peut-être candidat à l'élection donc présidentielle. Vous dites dans le Parisien, je suis déterminé à être candidat ou être président ?
Il faut être candidat pour présenter un projet de société.
Vous l'êtes ?
Expliquez. Je suis plus préparé qu'il y a quelques mois, pas encore autant que dans 20 mois. Mais je dois dire que l'expérience que j'ai pu acquérir dans mes différentes fonctions d'élu local, c'est très important d'être élu local. Vous savez, il n'y a rien qui remplace l'expérience, même la très grande intelligence, elle ne remplace pas l'expérience. Et puis ensuite, c'est de comprendre aussi que les Français veulent être compris, protégés. Ça fait déjà le début d'un chemin.
Et ce, alors que d'autres considèrent que le meilleur candidat pour la droite, c'est le président de la République. Vous avez montré que vous savez l'affronter ouvertement, mais saurez-vous rassembler maintenant votre famille politique et surtout avoir un autre programme que l'antimacronisme? Pour le vérifier ce matin, avec moi Nicolas Barret, des Échos, Damien Fleurot, de CNews. Mais tout de suite, effectivement, on s'aperçoit que le front social est encore très agité dans votre région. On écoute, on regarde.
C'est une annonce brutale. On est vraiment dégoûté, quoi.
Encore une maison à payer, une voiture, tout ça. Enfin, va falloir se battre.
Xavier Bertrand, on entend hein, ces salariés de l'usine Bridgestone qu'ils sont sous le choc après l'annonce de la fermeture de leur site par le fabricant de pneus japonais. Demain doit avoir lieu une réunion avec le gouvernement, les élus et les syndicats. Vous en serez. Que peut-il en sortir ?
Déjà, que l'on montre à Bridgestone qu'ils ont plutôt intérêt à investir enfin sur ce site plutôt que de partir comme ils s'apprêtent à le faire. Déjà, leur image, et s'ils ne comprennent pas pour leur image, bah leur chéquier. Si on a affaire à des financiers qui ont plutôt une calculatrice à la place du cœur, bah, il va falloir qu'ils voient qu'on ne part pas en France comme ça. On n'est pas aux États-Unis. On ne jette pas les gens comme des Kleenex. Donc il faut un plan social très important et un plan de revitalisation. Parce que notre responsabilité, les élus locaux avec l'État, ça sera de retrouver du travail, pas une activité, du travail à l'ensemble de ses salariés. Et là, Bridgestone ne pourra pas s'exonérer de ses responsabilités. Mais avant ça, il y a autre chose à essayer. Et ce qui est à essayer, c'est ce qui s'est passé en Italie, à Bari, en 2013. Bridgestone, pareil, dit, écoutez, ce qu'on produit ici, c'est plus rentable, on perd de l'argent, on ferme. Il y a eu un bras de fer terrible entre l'État, les organisations syndicales et Bridgestone. Et à la fin, l'État a accepté de financer une très large partie des investissements qui étaient nécessaires. Et du coup, 60% des emplois qui étaient sur place au début, il y en avait près de 1000 également, ont pu être maintenus. Et cette usine, aujourd'hui, elle tourne. Le problème de Bridgestone, c'est qu'on a affaire à une société qu'on a essayé de débusquer. Moi-même, depuis des années, je leur dis, écoutez, si vous investissez, on investit avec vous. Il faut une étude pour savoir de quels investissements vous avez besoin. On la finance à 50%. Ils n'ont jamais répondu. Et là, pendant l'été, j'avais encore entendu des rumeurs. J'ai saisi le gouvernement en disant, ensemble, on les convoque pour savoir ce qu'il en est. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été obligés d'avouer la vérité, alors qu'en novembre dernier, ils nous ont menti effrontément à Bercy. En nous disant, non, vous inquiétez pas, ça ne fermera pas. Donc l'idée aujourd'hui, le plan B, on parle beaucoup de plan B, c'est d'avoir un projet de réindustrialisation et on ne se contentera pas de dire merci, on mettra aussi de l'argent, surtout qu'en plus il y a tout ce contexte des plans de relance, de l'État, de la région, pour pouvoir faire comme à Bari à l'époque.
Nicolas Barré.
Vous le disiez, les difficultés de cette usine, vous les connaissiez, on les connaissait tous. Il y a un peu plus d'un an, les salariés avaient refusé un plan de flexibilité. Est-ce que finalement, avec le recul, ils ont eu tort de refuser ce plan ?
Mais pourquoi ils n'ont pas accepté le plan de flexibilité ? C'est parce qu'eux étaient prêts à faire des efforts, sauf que le groupe investissait, vous savez combien ?
Oui, 6,5 millions, je crois.
Sur 3 ans, mais c'est une blague. Mais avec 6,5 millions, vous faites quoi? Rien du tout. Si vous voulez, à Béthune, pouvoir fabriquer des pneus, des pneus qui se vendent, il faut que ce soit des grands pneus. Là, aujourd'hui, c'est des petits pneus. Ça ne se vend plus, les petits pneus. Même sur les petites voitures, les moyennes voitures, les pneus ont changé de taille.
Donc, ce que vous dites, c'est que l'écosystème économique a changé et il faut aussi s'adapter.
Exactement, c'est ce qu'on leur demande. Et donc, les investissements, Nicolas Barré, c'est 150, 200 ou 250 millions d'euros. Avec 6,5 millions d'euros, les salariés ont compris un truc. C'est que de toute façon, c'était reculé pour mieux sauter. On leur demandait des efforts et Bridgestone n'en faisait pas. Voilà pourquoi ils n'ont pas marché. Et là, aujourd'hui, moi, je le dis encore une fois, 150, 200, 250 millions d'euros, la région ne viendra pas symboliquement comme l'État. Ouais. On est prêt à financer une grande partie de ces investissements s'il y a des engagements clairs pour que l'on garde de l'emploi sur le site et des perspectives. Pas de l'emploi pour 6 mois, pas de l'emploi pour 6 ans, pour beaucoup plus que cela.
Mais quelles sont les mutations possibles? Vous dites aussi que ça va coûter très cher à Bridgestone. Est-ce que ça ne va pas décourager d'autres investisseurs? Pour cette usine, cette entreprise, quelles sont les mutations possibles?
Pour Bridgestone?
Oui.
Par exemple, écoutez, les petits pneus, c'est terminé. C'est terminé. Sur n'importe quelle voiture, je ne sais pas ce que vous avez comme voiture, aujourd'hui, on est monté en gamme, on est monté en taille. Et d'ailleurs, ce sont des pneus, les 17 pouces, les 18 pouces, les plus de 18 pouces, qui rapportent également davantage. Or, pour faire ces pneus-là, il faut investir. Et donc, c'est comme ça. C'est comme si on fabriquait aujourd'hui, allez, non plus des magnétoscopes, mais encore beaucoup de lecteurs DVD, alors qu'il faut fabriquer des box. C'est ça qui se vend le plus. Il faut être sur le bon marché.
Ces pneus, ils sont massivement fabriqués en Asie aujourd'hui. Hein. Il faut mettre des barrières à l'entrée de l'Europe.
Alors, attention, ceux qui sont en train d'être fabriqués, et là où Bridgestone veut délocaliser, c'est pour les garder en Europe. Mais par contre, il faut protéger l'Europe. Jean-Dominique Sénard avait lancé une initiative très intéressante, c'était en 2018, il était encore chez Michelin, pour justement mieux nous protéger. Parce que vous avez des pneus asiatiques, chinois principalement, mais aussi parfois vietnamiens, thaïlandais, qui pratiquaient du dumping et qui inondaient le marché européen. Ça a été long, mais il y a eu des actions qui ont été menées pour empêcher cela. C'était sur les pneus poids lourds. Il faut faire la même chose sur les pneus des véhicules de tourisme. Mais il faut aller plus loin. C'est la question de la sécurité. Il faut que l'on change au niveau européen les méthodes d'homologation. Parce que quand vous prenez des pneus neufs, tout le monde passe le test, tout le monde passe la rampe. Mais en revanche, au bout de quelques dizaines de milliers de kilomètres, et notamment sous la pluie, certains de ces pneus ne présentent pas les mêmes conditions de sécurité. Et soyons clairs, sont plus dangereux. Or, il faut que les normes changent. C'est une façon de nous protéger. Ça, et je le dis aussi...
Ça, c'est une réponse un peu politique que vous faites. Parce que c'est une critique qui a été faite par l'extrême-gauche, par Marine Le Pen. Vous répondez là aux politiques en disant « j'ai une solution ». Quelques mots.
Ce que proposent les extrêmes, c'est quoi déjà?
Extrême-droite, extrême-gauche.
Non, mais ils proposent quoi?
Ça vous nous dire?
Non, rien. Rien. Eux, ils critiquent. Écoutez, tout le monde a fait part...
Des barrières tarifaires, une souveraineté nationale.
Oui, non, d'accord. Sur... OK, on met quoi derrière? Moi, je fais de la politique pour apporter des solutions aux problèmes des gens. Des solutions au pays. Et là, vous en avez une.
Mais en imposant un contrôle technique plus strict sur les véhicules, vous pensez que les Français seront favorables et quand ils iront faire et contrôler leurs véhicules?
Vous pensez que sur votre voiture, quand vous roulez avec vos enfants et qu'il pleut, peut-être que vous avez payé votre pneu moins cher, mais vous ne pensez pas quand même que c'est mieux d'être en sécurité? Mais les normes sont des normes pour des pneus neufs. Elles ne sont pas pour des pneus qui, notamment, commencent à utiliser. On ne roule pas tout le temps avec du pneu neuf. Ils s'usent très vite. Et vous voyez, vous jouez la sécurité, et je l'assume également. C'est une façon de nous protéger, c'est vrai. Parce que ces pneus sont moins chers, parce que ce n'est pas la même qualité que Michelin, ou même que Bridgestone. Donc, du coup, vous protégez le marché européen, et je voudrais aller plus loin. Dans les années qui viennent, on n'a pas intérêt à manquer la bataille des normes et des homologations. C'est aussi la façon de protéger ce continent. Les Chinois sont en train de mettre en place des droits douaniers. Les Américains également. L'Inde est en train aussi de se préparer à ça. L'Europe ne peut pas être la dernière parce que si vous voulez engager un bras de fer dans les négociations, il faut aussi que vous soyez armés. Les tarifs douaniers, vous savez, ça s'appelle depuis bien longtemps la taxe carbone aux frontières de l'Europe parce que le pneu qui vient d'Asie, excusez-moi, ça pollue beaucoup plus de le faire venir que de le produire en Europe et en France.
Il y a eu un choc quand même avec cette nouvelle. On voit bien que tout le monde condamne unanimement donc, l'attitude de cette entreprise qui est également sponsor des JO. Est-ce que vous demandez qu'elle ne soit plus sponsor? Est-ce que Bridgestone doit rester sponsor des JO?
Je voudrais d'une certaine façon m'adresser aux dirigeants japonais, comme j'ai eu l'occasion de le dire à l'ambassadeur du Japon avec qui je me suis entretenu vendredi matin. Je pense que la décision a été prise par les instances européennes et qu'au Japon, on a dû voir les choses de loin. Or, un groupe comme Bridgestone, qui est top partenaire, c'est-à-dire l'un des premiers partenaires du Comité international olympique, se comportait comme ça. nous avoir menti, au gouvernement français, aux élus locaux, d'avoir traité de cette façon le personnel qui a appris par une vidéo ce qu'il en était, c'est pas tout à fait compatible avec les valeurs de l'Olympisme et avec les valeurs que porte Bridgestone. Donc, je le dis, avec Agnès Pannier-Runacher, on est tout à fait disposé à parler également aux dirigeants japonais, et s'il le faut, à y aller, parce que j'ai le souvenir d'une usine Penter, tout début de mon mandat, où j'avais vu chez eux, en Suisse, les actionnaires, et ils avaient accepté de changer leurs plans initiaux. Tout se tente, tout se tente. Oui, et vous savez pourquoi ? C'était le début de votre reportage. Et je vous remercie d'avoir commencé l'émission par ça. On parle de chiffres. 1000 personnes, c'est plus, avec les emplois indirects, les personnes qui sont à l'accueil, celles qui nettoient, celles qui assurent la restauration, et l'ensemble des sous-traitants. C'est que derrière ça, les gens que j'ai vus l'autre jour sont ceux qui vous expliquent que même quand ils gagnent 2100 euros, parce qu'ils font beaucoup de primes, beaucoup, entre les traites à payer et parfois les pensions alimentaires à verser, ils ne savent pas de quoi l'avenir sera fait. Et même s'il y a des projets industriels sur ce territoire, l'angoisse le soir, ça a été justement d'expliquer à leurs enfants comment les choses allaient se passer. Et de tout ramener ça à hauteur des gens. Pas seulement de l'Europe, pas seulement des rapports internationaux, mais ce que vivent les gens.
Et pas seulement de la politique, parce qu'on vous voit main dans la main avec le gouvernement, alors que d'habitude, vous êtes beaucoup plus offensif avec l'exécutif. Est-ce qu'on vous surveille ?
Tout le temps. Et jusqu'au bout. Dans les 20 mois qui restent au président de la République et à ses gouvernements, je jouerai toujours l'intérêt national, l'intérêt général. Toujours.
Et vous estimez que le gouvernement en a fait assez sur ce sujet de Bridgestone, cette convocation de la réunion lundi ?
Mais on bosse main dans la main. Et ce que je leur demande, c'est de tenir sur ce bras de fer et de leur dire, on ne part pas comme ça. Et si vous ne jouez pas le jeu, notamment avec ce plan B, ça se passera mal. Et ça se passera mal, c'est que toutes les procédures vont durer plus longtemps. Et ça va leur coûter très cher. Et je pense aussi également qu'il y a un autre sujet qu'il faut maintenant porter, c'est que les aides publiques, quand il y a une délocalisation, que quelqu'un part pour aller produire ailleurs et moins cher, ces aides-là doivent être remboursées. Et elles doivent être remboursées au bénéfice premier des salariés pour qu'on puisse les former pour un autre emploi, mais aussi pour que les territoires puissent retrouver de l'activité. On ne peut pas toujours garder son même emploi, il faut le dire. Il y a des choses qui ne se produisent plus ou qui ne se produiront plus, mais il faut à tout prix pouvoir retrouver autre emploi.
On se retrouve continuer sur une autre crise avec Xavier Bertrand.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Xavier Bertrand, président donc des Hauts-de-France et spécialiste des crises, crise sociale, crise sanitaire. Olivier Véran a fait un point donc sur la situation dans le pays. Masques, tests sur l'épidémie, les critiques sur la stratégie suivie par la France se multiplient, mais lui se montre confiant. On écoute, on regarde.
J'ai la confiance du président de la République. Nous sommes parfaitement en ligne sur la stratégie, qui est la même stratégie que celle que nous utilisons depuis maintenant des mois. Rassurez-vous, tout va bien et on travaille. C'est ça l'essentiel.
Alors peut-être que tout va bien, mais enfin le nombre de cas progresse, les hôpitaux sonnent l'alarme. Israël s'est reconfiné ce week-end. Est-ce que, c'est d'ailleurs le premier pays à le faire, Xavier Bertrand, il faut durcir les mesures ?
Il faut tout faire pour éviter un reconfinement généralisé et pour protéger au maximum les Français. On a eu le fiasco des masques. Le fiasco des masques. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Mais d'ailleurs, concernant le fiasco des masques, il faut aussi maintenant que le gouvernement réponde clairement et rapidement. Je vous donne juste un exemple. J'ai été sollicité par les présidents d'universités de la région des Hauts-de-France en me demandant à la région une aide financière pour pouvoir équiper les étudiants en masques. Je l'ai fait pour les lycées, les départements l'ont fait pour les collèges. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Je me suis tourné vers la ministre de l'Enseignement supérieur, je lui ai écrit, là, un peu plus de 10 jours, en disant, Madame la ministre, qu'est-ce que vous comptez faire ? Ben, si vous avez la réponse, vous avez de la chance. Moi, je ne l'ai pas. C'est quand même assez facile de nous dire oui ou non. C'est blanc ou noir.
Donc, qu'est-ce que vous faites ?
Si je n'ai pas cette réponse, dans les 48 heures, je ne vais pas engager une polémique avec l'État. Je fournirai une dotation de masques réutilisables pour chacun des étudiants de la région. Mais vous voyez, même ça, je pensais quand même qu'on avait compris que sur les masques, il fallait être clair et rapide. Même ça, on n'arrive pas à avoir cette réponse.
Et Xavier Bertrand, l'autre sujet, ce sont les tests.
Les tests.
Que
alors,
fait-on
sur la question des tests, ce qui me marque le plus, c'est le manque d'anticipation. Dans une crise comme celle-ci, deux maîtres mots, protéger, anticiper. Et je pense qu'ils ont été, toute cette technostructure qu'il doit y avoir autour du ministre, obsédé par l'idée que les tests montaient en puissance. On avait dit 700 000, on est passé à 1 million. Donc on regardait certainement les tableaux Excel en voyant que ça montait, on était content. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas, même le ministre, son entourage, quelqu'un qui s'est baladé dans les rues devant les laboratoires en voyant qu'il y avait des files interminables.
Mais c'est la responsabilité de l'État ou des laboratoires, de la filière?
Attendez, ils sont déjà surchargés, comme l'ensemble des soignants, depuis des mois et des mois. Non, mais ça, c'est aussi la façon de faire de la politique. Vous n'avez pas le droit d'être déconnecté. On ne vous demande pas de tout savoir, de tout comprendre en 48 heures. C'est une crise jamais vue. Il n'y a pas un pays qui a été si exemplaire que cela, même si l'Allemagne a eu de meilleurs résultats que beaucoup d'autres pays. Il n'y a pas un pays qui est passé au travers vraiment de cette crise. Mais vous voyez, regardez les images que l'on voit à la télévision. C'est que la politique, il faut la vivre à hauteur des gens.
Mais vous aussi, vous pensiez que la crise était terminée. On est dans une deuxième vague. Mais est-ce que vous avez-vous anticipé qu'il y aurait un retour du virus à la rentrée, alors que tout le monde pensait que c'était terminé?
Non. L'ensemble des professionnels, et pas seulement les virologues, les infectiologues, savaient pertinemment qu'on avait une période de répit, mais que pendant l'été, notamment avec le fait que beaucoup de jeunes allaient se retrouver, le virus pouvait justement se reconstituer et reprendre de la force. Après, il y a aussi un autre aspect sur l'anticipation. Il y a eu le fiasco des masques. Il ne faut pas que ce soit le même fiasco avec les tests. Il y a un sujet sur lequel le gouvernement n'a pas le droit de se louper parce que c'est nous qui sommes concernés, c'est le vaccin. Le vaccin, il faut que la France, qui est un des plus grands pays, qui a des entreprises pharmaceutiques sur son territoire, ait le vaccin à disposition parmi les premiers au monde et qu'on organise les choses.
D'après vous, vous avez été ministre de la Santé, vous connaissez aussi ces réseaux.
Un ancien ministre de la Santé ou même l'actuel ministre de la Santé qui peut vous dire à quel moment ça va arriver. Il y a tellement d'absurdités qui ont été délivrées sur beaucoup de plateaux, je ne vais pas participer à ce concours. Donc on sait pertinemment que ce ne sera pas avant 2021, quand même les laboratoires pharmaceutiques, j'étais en contact avec un certain nombre d'entre eux, ne sont pas précis sur cette question et on peut les comprendre. Mais nous, en tout cas, il faut qu'on l'ait et que les choses soient organisées en amont pour qu'on n'ait pas ces mêmes difficultés. Et puis, il y a un autre vaccin dont je voudrais parler. C'est le vaccin de la grippe. J'espère que le gouvernement a passé des commandes bien supérieures aux années précédentes, que nous sommes capables de commencer la campagne de vaccination très, très vite pour les personnels prioritaires et donc pour qui c'est obligatoire, et pour l'ensemble de la population. Parce que si vous avez en même temps un effet grippe saisonnière et Covid, alors là, notre système de santé va avoir les pires difficultés en établissement comme dans les cabinets de ville pour pouvoir tenir. Parce que si vous avez la Covid et que vous pensez avoir la grippe, alors là, je ne vous dis pas ce que ça représente en termes de contagion. Donc, il faut vraiment que le gouvernement, dans une campagne positive, mais massivement, vaccinons le maximum de personnes contre la grippe saisonnière.
C'est
une façon de se protéger, parce qu'elle tue cette grippe saisonnière, mais c'est aussi une façon de permettre à notre système de pouvoir tenir.
Nicolas Barré.
Alors, on n'est pas sorti d'affaire. Hein.
Xavier Bertrand, vous ne vous êtes jamais exprimé sur le plan de relance, il a plutôt été salué. Hein. Est-ce que selon vous, il est à la hauteur de la crise?
Le plan de relance, c'est quand on sera complètement sorti de la crise sanitaire. Pour l'instant, c'est encore davantage un plan d'urgence et un plan de soutien dont on a besoin. 100 milliards d'euros dans un programme d'investissement qui sera avant tout efficace en 2021-2022, il faut prendre. Moi-même, dans la région, j'ai mis en place un plan de soutien et de relance à hauteur d'1,3 milliard.
Qu'est-ce qui manque?
Il y a déjà beaucoup de mesures de soutien.
L'urgence et le soutien.
Il y a beaucoup de mesures de soutien. Oui, 30 milliards sur le chômage partiel, c'est quand même pas rien.
Il faut répondre à l'urgence. Il faut répondre à l'urgence.
Bien sûr.
Ça a du sens parce qu'il vaut mieux avoir des gens indemnisés en activité partielle. On garde le lien avec l'entreprise, on ne perd pas leurs compétences. Les gens ont de la visibilité plutôt qu'elles soient complètement au chômage.
Donc qu'est-ce qui manque?
Déjà, toujours la même logique, de n'oublier personne et de se mettre à la place de chacun. Concrètement, les indépendants, vous êtes artisans, commerçants, profession libérale, auto-entrepreneurs, quand vous n'avez plus d'activité, vous n'avez plus rien pour vivre. Aujourd'hui, vous le savez, les différentes fédérations vous disent qu'il y a 14 000 activités artisanales qui vont s'arrêter. Il y a déjà eu 2 000 fleuristes. Est-ce que le gouvernement a vu en détail comment ces personnes vivaient aujourd'hui? Elles ont pu rebondir ou elles sont sans activité? Parce que quand vous êtes indépendant, le système d'assurance chômage qui avait été mis en place juste sur le papier, ça ne procure aucune garantie. Vous payez comment la cantine des enfants?
On a entendu des politiques dire ça, cette critique du plan de relance qui laisse de côté les plus faibles. Marine Le Pen le dit également.
Moi, j'apporte des solutions. Les solutions, c'est justement de mettre en place un système d'assurance chômage formation. Formation, et pour ne rien vous cacher, nous sommes en train, nous, de le mettre en place dans la région. Un indépendant qui n'aurait plus rien pour vivre, on le prend en formation professionnelle, mais pas une formation parking, une formation pour pouvoir rebondir, en lui donnant un statut de la formation professionnelle. Et on travaille avec les départements. Plutôt que ces personnes se retrouvent au RSA, ce n'était pas leur projet de vie, d'ailleurs c'est le projet de vie de personne, ça va nous permettre d'en prendre davantage.
Donc il faut repousser le plan de relance, vous dites. Il faut le repousser parce que c'est l'urgence maintenant.
Non, il faut mettre de l'argent tout de suite. Parce que vous avez aujourd'hui des personnes qui, malgré la crise sanitaire, vont bien. Vous le voyez, il y a quand même un taux d'épargne qui est important, mais il y en a d'autres qui vont beaucoup moins bien. Quand vous avez été même au chômage partiel, vous avez eu 16% de votre revenu en moins. Dans beaucoup de budgets, ça compte et ça pèse. Le fossé s'est aggravé avec la crise sanitaire. Alors, vous avez... Attendez, c'est très important. Les précaires, tous ceux qui ont fini leur CDD qui n'a pas été renouvelé, ceux qui faisaient des extras, regardez le secteur de l'événementiel, il est sinistré, il n'y a pas de perspective.
C'est ça le gros des pertes d'emploi, ce n'est pas les plans sociaux.
Exactement.
On parlait de Bridgestone.
Attendez, Bridgestone, ça n'a rien à voir avec la Covid. Bridgestone, je pense, hélas, c'est l'un des premiers grands plans sociaux que l'on va connaître.
Et il y en aura d'autres.
Et vous savez qu'il y a des secteurs complets, notamment l'aéronautique. Tant qu'il n'y aura pas une reprise des transports, vous aurez des conséquences parce qu'il n'y aura pas de commandes d'avions. Et d'ailleurs, je pense que le gouvernement devrait accélérer les commandes au titre de la défense de façon à pouvoir soutenir ce secteur de l'aéronautique. Et je prends des mesures très concrètes, très concrètes. Le secteur de l'aéronautique ne va pas bien aller pendant longtemps. Le secteur du ferroviaire a des contrats de commandes bien remplis. Il faut organiser plus rapidement le prêt de main-d'œuvre pour que les personnes puissent aller travailler. C'est ce que je fais, notamment Alstom Bombardier dans le Valenciennois. Eh bien, vont pouvoir recruter des salariés, pour l'instant quelques dizaines, il faut que ce soit plus, notamment de Stelia qui travaille pour Airbus chez nous.
On va continuer à parler du plan de relance dans quelques instants. On se retrouve parce que c'est effectivement un sujet important. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Xavier Bertrand, donc président des Hauts-de-France. Comment concilier la relance et l'urgence, Nicolas Barré?
Et alors donc, pour terminer sur le plan de relance, faut-il, à vos yeux, davantage de mesures pour soutenir la demande aujourd'hui?
Oui, c'est aujourd'hui ce qui manque dans le plan. Je vous donne quelques exemples sur la question de la TVA. Moi, je suis pour des baisses de TVA ciblées et temporaires. Par exemple, pendant 9 ou 12 mois, baissons la TVA sur les travaux à domicile, pas seulement sur la rénovation énergétique, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Vous faites ça. Vous utilisez l'épargne des Français. Vous donnez du travail à qui? Aux artisans, à nombre de TPE, PME qui ne sont pas assez concernés par ce plan de relance. Et derrière, en plus, vous évitez le travail au noir. Prenez notamment aussi la proposition de Guillaume Pelletier, que je partage. TVA à taux zéro sur les circuits courts à partir des agriculteurs. Vous leur donnez un avantage décisif. Voilà des exemples très concrets. Et puis, surtout, quand je vous parlais justement d'aider les petites entreprises, les très petites entreprises, il faut absolument que nous trouvions une solution pour la fin du moratoire, des moratoires bancaires dans notre pays. C'est maintenant que ça tombe. Et si on laisse uniquement les petites entreprises face aux banques, je vous le garantis, ça ne va pas bien se passer pour tout le monde. Il faut que la médiation du crédit, qui était là pour le PGE, puisse aussi intervenir. Les cafés, hôtels, restaurants, la question des loyers n'est toujours pas réglée. Vous voyez, ce que je demande là, ce n'est pas de l'argent à l'État. Je demande juste qu'on utilise...
Ça coûte un peu, mais...
Mais à qui ? À des très très grands groupes, comme notamment Unibail, qui peuvent passer cette crise. Et celui, justement, qui, lui, n'arrive pas à s'en sortir, qu'est-ce qu'on fait? Il va mettre la clé sous la porte?
Xavier Bertrand, on entend bien que là, c'est votre casquette coach du gouvernement, hein, avant de passer au moment où vous êtes beaucoup plus dur avec lui. On voit que le plan de relance consacre aussi 35 milliards à la transition écologique. On vous entend presque jamais sur ce sujet. Très important, très contemporain. Alors, quand on s'occupe des classes populaires, on oublie le climat?
Déjà, quand on s'occupe des classes populaires, quand on essaye de se mettre à leur place, on veut une écologie qui soit accessible pour eux et donc populaire. Parce qu'il ne faut pas que l'écologie soit réservée
à
ceux qui peuvent se payer l'écologie. Quand vous avez... Les gens ont très bien compris qu'après une société basée avant tout sur l'économie, c'est-à-dire avoir un emploi et puis le pouvoir d'achat, il fallait aussi, notamment pour les générations futures, qu'on soit sur une logique où il faut protéger la planète parce que c'est notre santé qui en dépend. Les gens sont tout à fait d'accord, mais il faut que ce soit compatible. C'est ça qu'ils veulent. Vous savez, dans la région des Hauts-de-France, je pense qu'on s'intéresse peu à ce que nous faisons sur l'écologie, sur la transition environnementale. C'est nous qui avons porté le concept de troisième révolution industrielle. Et donc, là-dessus, que ce soit l'hydrogène sur la mobilité, on est en train de travailler aussi sur des trains au GNV. On est au rendez-vous. La transition énergétique des milliers de personnes dans la région ont d'ores et déjà été aidées. Et nous voulons clairement aller aussi plus loin. La seule chose, et j'assume totalement cela, pour moi, quand vous parlez de transition écologique environnementale, le nucléaire reste aussi aujourd'hui une énergie qui est une énergie propre. Et si je peux me permettre, si on n'avait pas décidé la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim, nous n'aurions pas les inquiétudes d'aujourd'hui pour savoir si l'hiver sera rude ou très rude et si nous allons avoir des problèmes de coupure ou pas pour certains secteurs industriels. Donc vous voyez, il est possible de réussir ça ensemble, de marier l'économie et l'écologie. Et c'est ce que je veux faire. Mais par contre, il y a un danger dans ce que prépare le gouvernement. Il y a un danger.
Dans le plan de relance ?
Damien Abad, Julien Dive, qui travaille sur ces questions au sein de LR, m'ont aussi alerté là-dessus.
Ça fait deux fois que vous citez des gens de LR, là. On a compris que vous leur envoyez quelques petits messages.
Et quelqu'un comme Émilie Carillou, qui n'est pas LR, avec qui je me suis entretenu ces derniers jours, qui m'a expliqué que dans le projet de simplification du gouvernement, il y avait un vrai risque que beaucoup de procédures environnementales soient complètement mises de côté. Ce qui manque dans ce plan, c'est un fonds pour la dépollution. Et la dépollution pour les PME et les TPE. Donc vous le voyez, je pense que sur tous ces sujets-là, on sait qu'on a besoin d'accélérer, mais on n'a pas besoin non plus de faire n'importe quoi.
Alors Xavier Bertrand, Gérald Darmanin, Jean Castex, deux de vos proches à des postes importants, vous y voyez une démarche contre vous de la part d'Emmanuel Macron ?
À poser la question au président de la République ?
Oui, bon, je vous la pose, je connais cette réponse, mais franchement, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis pas assez proche du président de la République pour pouvoir vous répondre à sa place. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire ? Soyons plus clairs, allons droit au but.
C'est la question qui est très, très, très claire. Est-ce que vous y voyez une démarche contre vous de la part d'Emmanuel Macron qui se méfie de vous pour la présidentielle ? Ça ne peut pas être plus clair. Hein.
Ça semble clair, non ? Ça semble clair ? Évident ? Parce que ce que l'on voit bien, c'est que le président de la République essaye aujourd'hui de nous faire croire qu'il a compris que ces sujets étaient importants. C'est bien ça. C'est bien ça. Les questions notamment de sécurité. Très bien. 3 ans et demi de perdu. 3 ans et demi de perdu. On nous annonce une loi sur les séparatismes. Et d'ailleurs, le président de la République a visiblement du mal à prononcer le mot islamisme. Parce que c'est ça, quand même, le problème.
Il a prévu un discours sur ce sujet le 2.
Le 2 octobre, selon
le
JDD.
Ça fait des années que tout le monde prend conscience. Et il n'y aurait pas la grande naïveté du président de la République sur ces questions. Ça fait longtemps qu'il aurait dû y avoir un texte. Et on va même plus loin. En juin 2019, Éric Diard présente un rapport sur la radicalisation dans les
député
services publics.
LR.
Tout le monde dit.
Il le fait en collaboration également avec un député de la République en marche.
Exactement. Tout le monde dit. Il a raison. Il faut bouger. Qu'est-ce qui a été fait derrière ? C'est-à-dire qu'on va attendre 1 an et demi après pour présenter justement ce travail. Ça fait partie justement des sujets sur lesquels je parle et je travaille notamment avec Rachida Dati, qui croit beaucoup que sur ces questions, il faut faire preuve de fermeté, mais qu'il faut trouver les solutions intelligentes.
Vous avez réintégré LR depuis quelques jours, les Républicains ?
Je ne reviendrai pas en arrière. Les Républicains, ce n'est plus mon parti politique, mais c'est ma famille politique et ça la restera.
C'était pour comprendre, on en reparlera.
Et je pense que vous aviez très bien compris. Et donc, je vais jusqu'au bout du raisonnement. 3 ans et demi de perdu. 3 ans et demi de perdu. Il ne s'agit pas de prendre un ministre de l'Intérieur beaucoup plus compétent que son prédécesseur. Pardonnez-moi.
Gérald
beaucoup
Darmanin.
Plus conscient de ces problèmes-là que le président de la République. Pour pouvoir justement dire, c'est bon, j'ai compris. Non, ce que les Français veulent très clairement, c'est que les choses changent et qu'elles changent rapidement.
Damien Fleurot.
Oui, on voit donc que les questions de sécurité préoccupent au plus haut point les Français. Un sondage sur le rétablissement de la peine de mort a montré que les électorats de LR, les Républicains et du Rassemblement National étaient très majoritairement pour. Est-ce que c'est votre
pas
cas
moi.
Est-ce que c'est un sujet qui doit se poser ?
Pourtant, vous voulez leur parler. Comment vous allez leur expliquer que vous êtes contre ?
Ça, vous voyez. Être populaire, c'est incarner et porter le message du peuple. Être populiste, c'est suivre le peuple. Je ne suis pas populiste. Je suis persuadé que nous ne devons pas faire ce pas en arrière. Il n'en est pas question. Et si je suis élu, il ne sera pas question de revenir en arrière et de revenir sur l'abolition de la peine de mort. En revanche, je pense qu'il faut bien voir pourquoi les Français disent cela. C'est parce que...
Si vous êtes élu à quoi ?
À la présidence de la République.
Donc vous êtes candidat. Ce matin, vous nous dites que vous êtes candidat.
Écoutez, vous me posez une question, ne jouons pas autour des mots. Vous me posez la question, vous m'invitez aussi, parce que vous savez ma détermination à être candidat. Donc, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. On
très
va jusqu'au
bien,
bout.
Acté.
Pourquoi les Français ont cette réaction ? La sécurité, hélas, dans aucun pays, à aucune époque, vous ne pouvez la garantir à 100%. Mais en revanche, la justice, vous devez la garantir à 100%. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. On peut vouloir porter tous les discours sur les questions de sécurité. C'est sur la justice aujourd'hui qu'il faut porter l'accent. Les peines non appliquées, les peines appliquées avec retard, voilà le fléau. Et ce sentiment d'impunité mine l'autorité républicaine. Toutes ces questions de sécurité, de justice, de défense et de respect de la laïcité ne sont plus des options. Parce que tout ça finira très mal avec des Français qui estimeront que l'État ne les protège plus, qu'ils doivent se protéger par eux-mêmes. Et ça, c'est la fin de la République, c'est la fin d'une nation.
Alors, pour quelle raison un électeur de la droite qui soutient Emmanuel Macron depuis 2017, au fond, se détournerait-il de lui et considérerait que vous êtes le meilleur et qu'il pourrait vous préférer ? Quelle différence ?
Si Emmanuel Macron était de droite, il aurait fait de la sécurité sa priorité depuis 3 ans et demi. Si Emmanuel Macron était de droite, il aurait fait de la lutte contre l'immigration illégale sa priorité. Quand vous regardez le nombre de titres de séjour qui ont été attribués, notamment c'est Éric Ciotti qui m'en parlait dernièrement, qui travaille beaucoup sur ces questions, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et la droite, vous savez, la droite, elle est aussi sociale. La droite à laquelle je crois est populaire. Ça veut dire également qu'elle ne doit pas laisser les plus fragiles sur le bord de la route. Et vous savez aussi, ça n'est pas ce qui s'est passé depuis maintenant 3 ans et demi. Les gens aujourd'hui veulent qu'il y ait une réconciliation et un apaisement. C'est un quinquennat de tumulte. C'est un quinquennat de crise. La crise sanitaire, elle ne leur est pas imputable. La gestion, oui, mais pas la crise. Mais la crise des gilets jaunes, la crise de la réforme des retraites, ils en sont responsables. Les Français veulent de l'apaisement et de retrouver cette confiance. Ils veulent tout simplement se réconcilier. C'est impossible de faire l'unanimité, mais il faut recréer une majorité autour de projets et d'engagements.
Nicolas Barré.
On voit bien que vous êtes candidat pour 2022, vous nous le dites, mais la prochaine élection, c'est les régionales. Et vous dites aussi que ces régionales, c'est un peu votre primaire.
C'est mon rendez-vous de la confiance.
C'est un peu méprisant pour les électeurs du Nord, quand même.
Attendez, disons les choses très clairement. C'est mon rendez-vous de la confiance. Je ne prendrai personne en otage. Ni les gens des Hauts-de-France, ni même des électeurs de gauche qui avaient pu voter pour moi et qui peuvent encore voter pour moi cette fois-ci. Les choses sont très différentes. Si je gagne cette élection, dans cette région aussi populaire, la plus populaire de France, c'est donc que j'aurai réussi à gagner la confiance de cet électorat populaire. Je pense que celui qui gagnera la fois prochaine, s'il n'a pas la confiance d'une partie de l'électorat populaire, ne pourra rien réussir, ne pourra pas relancer le pays, ne pourra pas continuer les réformes.
En fait, vous parlez de confiance, pas être rempart contre le RN, c'est fini, on ne peut pas être rempart deux fois.
Je pense quand même avoir prouvé que le premier rempart contre l'extrême droite dans ma région et au niveau national, je pense avoir tenu ce rôle et je continuerai à le faire. Mais comment ? En m'attaquant aux causes du vote du Front National. Quand, par exemple, avec Natacha Bouchard, nous obtenons de Bernard Cazeneuve le démantèlement de la jungle de Calais, Madame Le Pen n'a plus le prétexte de dire « Regardez, il y a 9000 personnes, c'est dramatique, personne ne fait rien. » Ce problème n'existe plus dans la jungle de Calais. Il y a encore aujourd'hui des migrants et on travaille avec Gérald Darmanin pour aller jusqu'au bout et régler le problème. On aura l'occasion certainement d'en parler dans les prochains jours, l'attitude des Anglais étant inadmissible en la matière. Mais vous voyez, quand on réussit à faire reculer le chômage comme on le faisait avant la crise du Covid, moins de gens dans le désespoir et dans la colère, c'est aussi une façon de les sortir du vote du Front National. Donc il y a les deux aspects, mais si vous n'avez pas la confiance, Michel Darmon, vous ne pouvez rien réussir, rien relancer.
Alors justement, on va savoir comment vous allez obtenir la confiance de votre famille politique. A tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Michel Darmon.
Et le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui est aussi donc candidat à l'élection présidentielle pour la droite. Les dirigeants de LR en petit comité ces jours-ci ont tourné la page de François Baroin et se tournent vers vous. Vous allez rencontrer Christian Jacob, bientôt Nicolas Sarkozy. L'enjeu maintenant, c'est de vous faire aimer votre famille parce que souvent on dit de vous, vous êtes dur, il est difficile, difficile d'accès, lointain. Comment rassembler ?
Parce que j'ai fait un choix en 2015. C'était de m'éloigner de tous les cercles politiques, les cercles parisiens. D'une certaine façon, ce que j'ai gagné avec cette élection, c'est à la fois une meilleure compréhension de ce que vivent les gens. J'ai vu la mort de la politique dans cette élection régionale. J'ai vu des gens qui votaient pour le Front National, pas parce qu'ils étaient fans de Mme Le Pen, mais parce qu'ils en avaient marre de tout et qu'ils avaient le sentiment que rien ne changerait en bien dans leur vie. Et là, je me suis dit qu'il fallait quand même changer beaucoup aussi de ce qu'ont été mes pratiques, même quand j'étais ministre. Vous voyez, Quand vous êtes ministre, vous devez réduire les déficits. Les chiffres comptent plus que l'impact sur les gens. Tout ça joue.
En tant que président de la région des Hauts-de-France, vous n'êtes pas garant des finances publiques, de votre collectivité.
Mais heureusement que je peux agir. Oui. Regardez la façon dont on a valorisé le pouvoir d'achat des gens de la région. On a fait un chèque carburant pour ceux qui prennent leur voiture, un chèque pour la garde d'enfants, un chèque vacances pour ceux qui avaient travaillé pendant le Covid, qui n'avaient pas eu de prime. Au final, ce sont
autant de mesures
plusieurs centaines
de
milliers
que vous avez conseillé parfois aussi au gouvernement. Mais
comment
dépasser...
toujours dans la recherche de
solutions. Comment allez-vous dépasser cet anti-macronisme qui fait votre marque de fabrique au fond? Vous vous affrontez en permanence le président Macron, ça vous savez le faire. Mais est-ce que vous avez autre chose, un programme qui dépasse ça?
Évidemment, évidemment. Mais arrêtons-nous un instant. La fois dernière, nous avons été privés d'un débat de société. Nous n'avons pas eu à la dernière présidentielle un choix de société clair. C'était pour ou contre Madame Le Pen. Et moi-même, qui m'étais engagé totalement dans la campagne de François Fillon, je suis allé à la télévision au soir du premier tour. On dit ce qu'on aime Emmanuel Macron ou pas. Pour moi, qui connais le Front National, ses dangers et ses risques, il faut voter pour Emmanuel Macron pour éviter Marine Le Pen. Je ne regretterai jamais ce choix. Ce serait à refaire, je le referai, quelles que soient les critiques que je porte sur l'action du président. Mais ça aurait été intéressant d'aller vers le choix de société. Parce qu'Emmanuel Macron est quelqu'un pour qui le choix de société est avant tout dicté par l'économique. C'est sa théorie des premiers de cordée qui tire tout le monde, cette théorie du ruissellement. Mais bon sang, c'est pas la France ça. C'est pas le modèle républicain. Et en plus, comme il est d'une certaine façon un libéral anglo-saxon, quand l'économique prime, vous comprenez pourquoi l'autorité républicaine, la sécurité, la justice...
Quand il fait le discours du Panthéon, c'est pas républicain ?
Mais il parle, il fait des beaux discours, même parfois de très beaux discours. Mais la question, c'est derrière, on veut un quinquennat de résultats. Les Français vous disent aujourd'hui, pour nos enfants, on a envie d'espoir. Mais la question, c'est comment, quand vous travaillez, comment, quand vous avez un SMIC, deux SMIC, comment vous faites plaisir à vos enfants? Comment vous leur donnez un avenir? Et les Français sentent bien qu'il faut à la fois réconcilier, pardonnez-moi, le patron et l'ouvrier. Celui qui va bien et celui qui va pas bien. C'est ça, ma droite. Et l'autorité républicaine, pardonnez-moi, en premier. La cohésion entre les Français, entre les territoires. Et je l'ai dit tout à l'heure, parce que je sais souvent ce que l'on dit de moi, et cette transition écologique qui est indispensable à un rythme compatible avec l'économie. Voilà. Et sur ça, il faut prendre des engagements peu nombreux. C'est fini l'époque des 110 propositions. Et vous me l'avez dit tout à l'heure, rassembler ma famille politique, oui, mais rassembler aussi au-delà de ma famille politique.
D'accord.
Il y a nombre de centristes avec qui je travaille aujourd'hui à la région. Et je pense même qu'il faut rassembler les bonnes volontés. Parce que la prochaine fois, vu la situation du pays, et j'espère que dans les 18 mois qui viennent, mon pays, notre pays ne chavirera pas. Parce qu'on va connaître une tempête comme jamais on a connu.
Ah tiens, tempête, comme Édouard Philippe,
oui,
vous dites.
Tout à fait, bien sûr, mais je le dis depuis bien longtemps. Dans la tempête que l'on va connaître, je ferai tout en jouant l'intérêt général, toujours, en faisant des propositions, parfois en alertant pour que le président de la République, pardonnez-moi, se réveille et réagisse. Je ferai tout au nom de l'intérêt général pour que mon pays aille le mieux possible, et les Français aussi.
D'accord, alors vous dites qu'il faudra rassembler. Comment est-ce que la droite devra désigner son candidat?
Ça sera à elle de le déterminer. Moi, je sais quelle est ma volonté. C'est rassembler, mais aussi au-delà. Je l'ai dit, je pensais que tout le monde était vacciné contre les primaires, quelles que soient les
On parle de départage maintenant, ouais, mais c'est le même mot, c'est la même démarche.
Mais aller jusqu'au bout. On a une maison, c'est la France. Tout le monde sait qui je suis. Ma famille politique, c'est la droite. Et je vous ai expliqué quelle droite. Mais regardez, inspirez-vous de ce que proposent les uns et les autres. Regardez l'interview de Manuel Valls aujourd'hui sur cette question républicaine. Cette question républicaine. Où sont nos différences? Prenez notamment les propositions d'Arnaud Montebourg sur l'industrie. Ah, lui, il a fait bouger des choses. Lui, il a aussi une vision. On ne peut pas partager à 100%. Je ne partage pas tout à 100%, mais il y a une véritable volonté
politique. Là, vous envoyez des messages à tout le monde aujourd'hui.
Non,
LR,
parce que j'ai toujours été dans cette logique. Alors, vous savez, je ne suis pas un mec sectaire. Je suis quelqu'un de rassemblement et je suis intimement convaincu que la fois prochaine, il faudra un vrai projet de société.
Bertrand,
parce que le Front National n'est pas une forme d'alternative.
Vous les appelez Xavier Bertrand, vous les appelez à vous rejoindre dans votre démarche présidentielle, à vous rejoindre dans la manufacture, cette formation qui va se transformer en parti, c'est ça? Vous levez des fonds d'ailleurs pour...
Non. Elle ne se transformera pas en partie. Parce que je n'ai pas envie de transformer ce qui est un vrai cercle d'idées, ce qui me permet de maturer mes idées. Je n'ai pas envie de le transformer en parti politique pour avoir des délégués de circonscription, des délégués cantonaux, des candidats aux élections. Et d'ailleurs, je n'ai jamais voulu que ce soit une machine à délivrer
des militants.
Je n'ai jamais voulu que ce soit une machine à délivrer des investitures, ni pour les municipales, ni pour les régionales, ni pour les élections départementales. Je reste dans cette logique. La prime de 1 000 euros, quand je l'ai proposée au président de la République au cœur de la crise des Gilets jaunes, parce qu'il y avait ce problème de pouvoir d'achat qui n'est toujours pas réglé. C'est au sein de la manufacture, avec des chefs d'entreprise, avec des salariés, que j'ai réussi à trouver la bonne solution qui a permis d'apporter, encore une fois, une amélioration de pouvoir d'achat. Je me concentre sur les idées et sur le projet, et la dynamique et le rassemblement, ça vient aussi naturellement.
Mais comment vous allez procéder ? Vous allez rencontrer les responsables les uns après les autres ? Vous allez les convaincre qu'il faut effectivement arrêter ce système de la primaire et vous soutenir ? Vous êtes un candidat extérieur à LR soutenu par les Républicains ?
Ça sera à eux de le dire. Je n'ai pas à dicter la conduite à qui que ce soit. Je n'aime pas qu'on me dicte ma conduite. Les seuls à qui je dois rendre des comptes aujourd'hui sont les 6 millions d'habitants de la région des Hauts-de-France. Je ne vais pas faire la même chose.
Mais aujourd'hui, cette idée de rassemblement, elle passe aussi par, au fond, le signal que peut donner une personne, qui est Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, que vous allez rencontrer certainement dans quelques jours.
Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois
mais
que je rencontrerai Nicolas
disons
Sarkozy.
Disons que là, ça devient peut-être avec une dimension un peu différente.
Non, c'est vous qui voyez les choses comme ça.
Aussi comme ça.
Vous voulez savoir pourquoi je vois Nicolas Sarkozy ?
Allez-y,
c'est parce que j'ai lu cet été son livre. Je suis aussi...
Qui s'est très bien vendu, d'ailleurs.
Oui, parce qu'il dit des choses. Et puis, il a fait aussi des choses passionnantes. Et au cœur de la crise de 2008... Heureusement que c'était Nicolas Sarkozy qui avait été élu président de la République. Et c'était intéressant de voir des épisodes que j'ai pu vivre pour pouvoir en parler avec lui. Et puis aussi cette dimension internationale, la façon dont il voit l'évolution du monde. On a beaucoup parlé de la région, on a beaucoup parlé de la France. J'ai voulu parler notamment des relations au niveau européen et avec les grands blocs. On ne peut pas non plus faire abstraction de ça. Il y a aussi cette vision de l'avenir. Et c'est ça le point de départ. Est-ce qu'on parlera que de ça ? Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est ça l'origine. Et puis, je ne l'avais pas fait à l'époque. Mais j'ai aussi relu dans la foulée son premier livre.
D'accord.
Sur justement ce
Donc
qu'il avait fait avant la candidature.
Vous avez cessé votre inventaire parfois très dur à son égard et maintenant vous découvrez une forme d'indulgence.
On s'est toujours parlé en toute franchise. Je crois même que c'est ce qu'il dit dans son livre à différents moments.
Et à propos franchise, est-ce que vous l'appelez ce matin à s'engager à soutenir un candidat de la droite et du centre et pas Emmanuel Macron ?
Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut le refaire de 36 000 façons. Je n'ai pas à dicter la conduite de qui que ce soit. Est-ce que les gens ont envie, oui ou non ? Il serait temps dans notre pays qu'on, d'une certaine façon, on dise oui à quelqu'un et à un projet et qu'on arrête de dire non seulement à l'extrême droite.
C'était le grand rendez-vous de Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle. À bientôt.
Europe 1.